Daniel, le pasteur de cette assemblée, va maintenant nous conduire dans la parole de Dieu, dans ce livre des Proverbes, et je veux juste prier pour lui. Merci notre Dieu pour ta parole, merci pour le trésor inestimable, inépuisable. Merci parce qu'elle contient tout ce dont nous avons besoin, nous n'avons rien à ajouter ni à retrancher. Sois béni pour Daniel, que tu as placé aussi au milieu de nous avec des dons que tu lui as accordés. Merci pour le travail qu'il a accompli pour préparer cet après-midi. Bénis-le, donne-lui l'autorité, les mots, mets tes mots dans sa bouche et accorde-nous aussi d'être disposés à être enseignés, à écouter ta voix, à grandir dans la connaissance de ta personne. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci, Sylvain. Bonsoir. OK, vous êtes prêts? C'est la série pour l'été. Quand tu poses les grandes questions de ta vie, l'argent, l'avenir, la carrière, où vas-tu? Comme Sylvain a dit, ChatGPT. Maintenant, c'est Claude. Je ne sais pas, c'est un bon nom, Claude. Pas Jean-Claude Van Damme, mais Claude. Où le rayon développement personnel à la FNAC? Où vas-tu? Et pourquoi, jour après jour, on continue de lutter avec soi-même? Ça, c'est notre question. Comme l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 7, « Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Tu vois ce que je veux dire? Après une discussion tendue, tu sais très bien qu'il ne faut pas relancer le sujet, mais qu'est-ce qu'on fait souvent? On ajoute une autre pièce dans la machine et ça continue. Tu sais que tu n'as pas besoin d'un verre plus, mais tu t'en sers un autre. Tu sais que tu n'as pas besoin de cette chemise ou cette belle robe, mais c'est juillet, c'est le solde, c'est important. Tu vois, on se reconnaît tous. Ça révèle quelque chose. On n'est pas si sage quand on aime le penser. Souvent, on agit comme si quelque chose d'autre peut rendre plus heureux, nous rendre plus heureux que notre Dieu. C'est pour ça qu'on va parler de sagesse cet été. Il me semble que c'est assez important pour nous en tant qu'Église, assez important pour nous en tant que chrétiens dans notre société, et aussi parce qu'on est une Église jeune. Jeune. OK? Vous êtes d'accord? Donc, Proverbe, c'est un livre, dans le livre de Proverbe, un livre qui vient mettre la sagesse au cœur de nos pensées confuses, au cœur de nos désirs désordonnés, au cœur de nos choix, pas toujours très sages. Donc, si vous avez la Bible, c'est page 417. Sinon, vous avez votre Bible numérique. Soyez sages, regardez pas tes emails, regardez pas ton texto, regardez la Bible ce soir pour les prochaines 25 minutes. OK, verset 1, on apprend dans le livre de Proverbes, page 417, l'auteur principal de le livre de Proverbes, pour la plupart, c'est Salomon. Il dit verset 1, « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. » Donc Salomon, ce n'est pas juste n'importe qui, c'était vraiment un roi important dans l'histoire d'Israël. On voit dans le 1 roi, chapitre 3, verset 9, que Salomon a demandé Dieu à avoir de sagesse. Il a demandé et Dieu a bien répondu. Il a demandé d'avoir un cœur capable d'écouter, un cœur pour comprendre le bien et le mal. Pas juste des informations, pas juste des connaissances, mais pour bien gérer son pays, pour bien gérer Israël. Et on voit le prochain chapitre dans 1 roi, chapitre 4, que sa sagesse, c'est exactement ce qu'il a reçu. Il a écrit 3000 proverbes, 1000 chants. Donc, il est beaucoup mieux que Matt Marvin, ni Phil Wickham, tous ces gars. Il a bien écrit toutes ces choses. Donc, c'était vraiment un homme d'excellence pour presque toute sa vie. Mais le proverbe ne relie pas seulement la sagesse, aussi il parle de la royauté. on voit que Salomon, c'est un roi d'Israël. C'est le fils de David. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Quand on voit la Bible, souvent, quand on voit cet aspect de fils de David, ça veut dire, ben, c'est vraiment l'histoire d'Israël qu'il y a un roi promis, un roi qui va amener la justice, un roi qui va amener la sagesse. Donc, quand il parle de roi, c'est aussi le roi sur terre, mais aussi ça parle de vraiment ce roi céleste. Parce qu'un roi sage forme un pays sage et un roi insensé entraîne ce pays dans la folie. On voit ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faut toujours regarder vers le Fils de Dieu, le Fils de David, notre vraie sagesse. Lui, il a accompli parfaitement la sagesse de Proverbe qu'on va lire ce soir. C'est pour ça que les Proverbes, ce n'est pas juste quelque chose cool pour accomplir un peu plus des choses dans la semaine. Ce n'est pas juste des mots sages ou de bons conseils pour mieux gérer ta semaine. C'est vraiment la parole de Dieu. Et il nous montre à quoi ressemble la vraie vie, à quoi ressemble un vrai citoyen dans son royaume. Par l'Évangile, Jésus restaure notre relation avec Dieu. Il restaure nos relations et il met toutes ces choses dans le bon ordre. Nos relations avec Dieu et nos relations avec les autres. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Et un jour, quand Jésus-Christ reviendra, il va restaurer ce monde pour son royaume. Et on va expérimenter ça, on va vivre ça pour les chrétiens aujourd'hui et pour les chrétiens dans le passé. On va régner avec notre Seigneur sur la terre pour toute l'éternité. Donc, la sagesse, ce n'est pas juste quelque chose pour aujourd'hui, c'est quelque chose pour l'avenir, pour toute l'éternité. Parce qu'on va vivre, on va régner avec toute cette sagesse qui vient de Dieu. Donc, la sagesse, c'est aussi une façon de gérer avec excellence la sagesse de Dieu dans notre Église. Donc, l'Église et cette vie, c'est un peu comme un stage pour tout l'avenir, pour toute l'éternité. Comment on va vivre dans la sagesse, même si on ne peut pas comprendre tout, comment on peut vivre la sagesse aujourd'hui pour jusqu'à toute l'éternité. Donc, on va regarder dans les versets 2 à 7, comment ça marche? Ça va nous montrer plus précisément qu'est-ce que c'est la vraie sagesse et où on peut la trouver. Donc, la première question, c'est quoi la vraie sagesse? C'est quoi la vraie sagesse? Verset 2. La sagesse, c'est l'instruction et la compréhension. L'instruction et la compréhension. Verset 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Est-ce que tu sais lire ce qui se passe autour de toi? Tu comprends mon question? Est-ce que quand tu entres dans un salon, est-ce que tu entres dans, avec les autres personnes, tu peux bien voir les situations? Tu peux bien voir un peu ces personnes-là? Tu peux bien comprendre leurs réactions? Tu peux bien comprendre un peu plus leurs motivations? Ça, c'est l'idée de la sagesse ici. C'est cette capacité-là. Comprendre ce qui se passe vraiment. Pas juste seulement les choses sur la surface, mais les choses dans la profondeur. Et pour ça, il faut de l'humilité. Il faut reconnaître, je ne sais pas tout. J'ai besoin d'écouter. J'ai besoin de quelqu'un qui peut m'aider. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me donner plus une vision clair pour l'avenir. Parce que celui qui croit déjà tout savoir n'est pas aussi sage. Parce que celui qui croit déjà tout savoir n'est pas aussi sage qu'il le pense. La Bible dit, même que c'est un insensé, c'est vraiment un imbécile. C'est exactement ce que la Bible a dit. Mais aussi, il parle de cet aspect d'instruction. Et l'instruction, au verset 2, parle d'une relation. Donc, ce n'est pas juste on est tout seul et on peut recevoir la sagesse. Mais on a besoin d'instruction à quelqu'un d'autre. on a besoin de quelqu'un qui peut nous enseigner. Et on voit ça qui est vraiment une relation avec quelqu'un d'autre, comme un disciple, une relation comme disciple. Quelqu'un qui peut te dire avec amour, ben, là, tu te trompes. Là, Daniel, tu vas dans la mauvaise direction. Là, tu es en train de mentir à toi-même. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça dans ta vie? On a tous besoin de ça. Les pasteurs, les diacres, tous les membres de l'Église, des frères et sœurs en Christ, peut-être c'est dans un groupe de croissance. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'espère avec la rentrée scolaire, tu peux parler avec moi, ou Christine, ou les autres diacres, et on peut trouver quelqu'un pour toi, pour la rentrée scolaire. Et accepter cela, accepter qu'on a besoin d'une autre personne dans nos vies, c'est une vraie marque de sagesse. La deuxième chose on voit, la sagesse, c'est une question d'éthique. Verset 3, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Donc la sagesse, ce n'est pas juste quelque chose pour rendre plus intelligent, ce n'est pas quelque chose de juste un gros QI, c'est savoir discerner le bien et le mal. Un personnage, c'est très bien. Une personne sage, c'est reconnaître ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il peut comprendre le bien et le mal. Dans les situations, pas juste dans l'avenir, mais dans les situations concrètes. Dans les situations et décisions difficiles de notre vie. Ça, c'est la sagesse. Où elle se trouve la justice, l'équité et la droiture. Le problème, c'est que très souvent, on pense que la folie et la sagesse sont moralement neutres, qu'il n'y a pas vraiment une grande différence entre les deux. Alors, si je te demande, il y a une série qui s'appelle The Simpsons, vous connaissez, OK? Qui est le fou dans la série The Simpsons? Si vous n'avez pas regardé, j'imagine que vous connaissez aussi. Qui est le fou? Bah, pourquoi? Parce qu'il fait des bêtises, n'est-ce pas? Il fait des désordres, il provoque, il désobéit. Il s'attire toujours des ennuis. Alors, qui est le sage dans la famille de Simpson? Qui? Lisa. OK? Oui, parce qu'elle est bien cultivée. Elle réfléchit beaucoup, n'est-ce pas? Elle est sérieuse, elle est intelligente. Selon le proverbe, désolé, Lisa est tout aussi insensée que Bart parce qu'elle voit ses parents comme des idiots. Et le proverbe dit que la folie n'est pas seulement un manque d'intelligence, la folie c'est l'incapacité de discerner entre le bien et le mal. La sagesse, ce n'est pas juste d'être malin, c'est apprendre à vivre dans la justice. Donc, Bart est un imbécile, mais aussi Lisa. Proverbes 2, verset 6 dit clairement que la sagesse vient de la bouche de Dieu. C'est exactement ce que Sylvain a déjà partagé. Donc, quand on se soumet à la parole de Dieu, au lieu de suivre simplement ce qui nous paraît juste, on apprend à craindre Dieu comme il faut. Un Dieu trois fois saint, un Dieu juste, un Dieu droit, injuste et saint. Et qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Dans le chaos et la confusion qu'on voit dans notre société, une grande partie du fait que l'être humain fait ce que lui semble bon, au lieu d'écouter la parole de Dieu. Donc on prend des décisions sans regarder la Bible, sans demander de conseils, et on prend nos décisions parce que ça me fait du bien. Et ce n'est pas seulement vrai juste la société là-bas, extérieure, ceux qui rejettent peut-être la définition de mariage ou la sainteté de la vie. C'est aussi dans nos églises. On regarde quelque chose, un texte, un verset, et on peut changer notre interprétation parce que comme ça me va. On est d'accord pour dire qu'on voudrait bien se mettre à Dieu et son règne dans notre vie, mais pas dans ce domaine-là. On pense toujours que peut-être, oui, je viens de suivre Jésus, mais ce côté-là, je peux mieux gérer. Et on voit un peu comme on a vu dans le livre de Genèse, un peu comme dans le jardin, il y avait cet arbre de connaissance, de bien et de mal. Mais maintenant, cet arbre, cet aspect de bien et de mal, Dieu nous a donné par sa révélation en Jésus-Christ, mais aussi par sa parole, par la sagesse qu'on trouve dans le proverbe, dans sa parole. La sagesse nous apprend donc à bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le bien et le mal, pour recevoir correctement la connaissance de tout ce qu'il voudrait bien partager avec nous. Et ensuite, la sagesse se soumet à cette parole, au règne de Dieu et son autorité dans nos vies. Donc, on ne regarde pas notre vie et la parole, on voit la parole et notre vie. Et c'est la parole qui règne sur nous par Jésus-Christ. Donc, vous pouvez prier pour les anciens, vous pouvez prier pour moi, quand on a la sagesse qui vient de la parole de Dieu et pas juste notre stratégie ou notre intelligence. On peut prier pour notre Église, qu'on peut grandir dans notre sagesse de la parole de Dieu qui peut nous guider dans l'avenir. Verset 4, la sagesse, c'est le discernement. Verset 4, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Salomon veut donner ce discernement à ceux qui manquent d'expérience aux jeunes. Et nous aussi, comme jeune église, on a besoin. Et ce public est influençable, qui croit souvent la dernière chose qu'il a entendue, qui se laisse facilement séduire ou convaincre. Et c'est juste ce public-là que Salomon voudrait bien enseigner, parce qu'il a encore d'espoir pour ce public-là, ces jeunes. Donc, c'est intéressant avec les jeunes parce que ils n'ont pas encore, l'idée pour Salomon, c'est qu'ils n'ont pas encore pris la décision qu'il va mettre dans la folie et ils n'ont pas encore mettre la décision qu'il va suivre la sagesse. Ils sont ouverts. Et Salomon veut bien éduquer ces personnes-là pour leur bien, qu'ils peuvent prendre des décisions, des bonnes décisions et pas les mauvaises décisions. Donc, le manque d'expérience, ce n'est pas un manque de sagesse. C'est juste l'aspect qu'ils ont ouvert. Et ça, c'est des choses que Solomon voudrait bien expliquer. Et pour aider ses enfants à distinguer le bien et le mal. Et c'est pourquoi il parle aux parents, il parle aux grands-parents, qu'on a un rôle à jouer pour les jeunes. On a un rôle à jouer pour ces enfants qui sont en train d'apprendre la sagesse de Dieu. C'est pourquoi c'est important d'avoir des enseignants pour Biblique Club. C'est pourquoi on a besoin des hommes et des femmes pour Biblique Club, pour les ados. C'est pourquoi on a besoin des hommes et femmes pour aussi les jeunes adultes dans notre Église. Pouvez-vous imaginer, on a 150 000 étudiants qui viennent chaque année pour étudier à Lyon, qui viennent pour grandir dans leur connaissance. Et on a une sagesse par la parole de Dieu qu'on peut partager avec ces personnes dans ce moment où ils ont quitté leur maison peut-être, ils arrivent à Lyon et ils ont ouvert. On doit transmettre la vérité de l'Évangile pour poser une vraie vie sur la sagesse. La dernière chose qu'on voit, c'est versets 5 à 6. La sagesse, c'est rester enseignable. Que le sage écoute, verset 5, et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre le proverbe et les paraboles, les paroles de sages et leurs énigmes. Voici, les versets ne parlent pas aux imbéciles, ne parlent pas à la folie, mais ils parlent aux sages. Et Salomon dit que même le sage doit continuer d'apprendre. Même le sage doit continuer à recevoir une direction. Même le sage, ils ont besoin de conseils pour avancer dans leur sagesse. Ça, c'est pourquoi ils sont sages. On pense souvent que un jour, on arrivera. Un jour, on n'a plus rien à apprendre, peut-être. Mais Salomon dit que cette manière de voir les choses, c'est justement de la folie. On n'est jamais arrivé jusqu'à Jésus revient. La vraie sagesse, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on a encore besoin d'apprendre. Au lieu d'avoir l'arrogance de croire que je suis bien arrivé. La personne sage sait qu'on ne reçoit jamais son diplôme de la sagesse jusqu'à Jésus reviendra. On a des artistes en résidence dans notre église, c'est vrai, Sylvia, des autres, mais aussi on a des geeks en résidence, comme JD. Donc JD a créé un site web, si tu veux flasher le QR code, c'est un outil pour regarder tous ces proverbes et comment les proverbes peuvent être plus efficaces, ou tu peux gérer un peu plus les proverbes dans votre vie, donc si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, vous pouvez parler avec JD, pas moi. Mais on a tous besoin d'entendre la sagesse du proverbe dans notre vie, parce que c'est la parole de Dieu. Tout au long de notre vie, encore et encore. La sagesse, comme j'ai dit, ce n'est pas un objectif qu'on attend une fois pour toutes, mais c'est quelque chose qu'on doit continuer à apprendre et avancer toute notre vie. C'est pourquoi les rencontres des dimanches, pour moi, c'est assez important parce que j'oublie, vous oubliez, pourquoi on a besoin de Jésus, pourquoi Dieu règne et pas nous, pourquoi on cherche un royaume en Dieu et pas dans notre propre royaume. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire la vraie sagesse, il reste une question, comment recevoir la vraie sagesse? Verset 7. On reçoit la vraie sagesse par la crainte de l'Éternel. Verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Salomon dit que toute vraie sagesse, au fond, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas une connaissance qu'on va obtenir, c'est quelque chose de spirituel parce que on ne peut devenir vraiment sage que dans une relation avec notre éternel Dieu, créateur et rédempteur. Ce n'est pas possible. Quand on prend des idées pour façonner notre manière de vivre comme Descartes, je pense donc je suis, je sais que vous connaissez bien, on oublie la sagesse de la parole qui dit dans Psaume 139, Dieu discerne de loin mes pensées. Dieu discerne loin mes pensées. Il dit encore dans Psaume 139, c'est Dieu qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Si ça c'est le cas, si Dieu règne et pas mes pensées, avant même que nos pensées soient bien formulées, Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Dieu nous façonne. Et la sage personne fixe son regard pas sur ses pensées, mais sur son Créateur et son Rédempteur. Ça, c'est la vraie sagesse. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi c'est vraiment bête, c'est idiot de voir que mes pensées, je peux trouver mes identités dans mon pensée, ou mes pensées. Un Créateur qui a créé les pensées, je trouve mes identités dans ça. Ce n'est pas logique. La crainte de l'Éternel, c'est une phrase un peu différente, difficile de comprendre, mais en fait, c'est juste le respect. C'est l'aspect d'adorer quelque chose de plus grand que nous. C'est l'aspiration de c'est le désir de regarder Dieu comme trois fois saint. Que c'est lui qui règne, pas moi. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Que c'est lui qui gère, pas moi. C'est lui qui est omniprésent, pas moi. C'est lui qui est omniscient, pas moi. Et de voir tous ces attributs qui viennent de Dieu, qui ne résident pas en nous. Les imbéciles, les idiots, les folies refusent d'être corrigés. Ils utilisent des mots forts dans la Bible pour ces gens-là. Ils sont même dans une situation plus grave que ça. Parce qu'ils manquent simplement, pas juste qu'ils manquent simplement d'expérience, mais parce qu'ils ne sont pas ouverts à changer. Ça veut dire qu'une personne très intelligente peut être un imbécile. Et ça peut aussi arriver chez nous. Et voilà le problème. On voit avec Salomon, lui-même finit par s'éloigner de Dieu. Il n'est pas persévéré dans la sagesse de Dieu. On voit ça dans son fils Roboam. Il n'a pas fait mieux. Au moment qu'il avait une décision entre ses amis et ses copains qui flattent son orgueil et la sagesse des autres anciens d'Israël, il a choisi ses copains. Et il a créé des dégâts pour tout Israël. Comme nous, quand on fait des dégâts par nos décisions. Mais la personne sage, elle, craint l'Éternel, lui fait confiance par l'humilité et vit devant lui, parce que c'est lui qui règne. Avec un respect, avec une crainte, dans la persévérance de notre vie. Donc, les décisions ordinaires qu'on prend chaque jour, ben, ça montre, est-ce que je crois dans ce Dieu-là ou est-ce que je crois que je suis mon propre Dieu? Est-ce que je crois dans la sagesse qui vient de la bouche de Dieu, dans sa parole, ou est-ce que je crois beaucoup plus dans mes pensées et dans mes désirs? Et d'avoir une compréhension de qu'est-ce que c'est bien et du mal. Ça, c'est la sagesse. Et on voit avec ça qu'il n'y a pas une séparation entre, voilà, ça c'est des choses spirituelles, des choses qu'on vit dimanche, et ça c'est des choses normales que je vois lundi à samedi. Non, tout ça, ça intéresse Dieu. Il veut bien toute votre vie, pas juste une partie. Parce qu'il voudrait bien régner sur tout. Si vous voulez aller plus loin, j'ai deux livres que je veux bien recommander. Un, c'est de mon prof, Michael Reeves, qui parle de la crainte du Seigneur et il voit exactement un peu plus pourquoi l'anxiété, ça monte plus en plus dans la société et pourquoi on ne croit pas vraiment dans la crainte du Seigneur. Donc ça, c'est un bon livre. Et l'autre, c'est quand les hommes ont plus d'importance et ça parle vraiment de cet aspect de crainte du Seigneur et pourquoi souvent on ne craint pas le Seigneur et on craint beaucoup plus les avis de nos amis et pourquoi on doit changer et remettre en ordre ces relations. Donc ce soir, la question on doit tout se poser, est-ce que je suis quelqu'un qui reste ouvert à l'instruction du Seigneur? Est-ce que je suis assez humble pour demander conseil, même quand je préférais qu'on me donne raison? Ou est-ce que je vais surtout vers les personnes qui me disent exactement ce que j'ai envie d'entendre, comme Roboam? Est-ce que je suis quelqu'un qui pense toujours avoir raison? Parce que la folie, c'est ça, faire ce que nous ressemble juste à nos propres yeux, au lieu d'écouter ce que Dieu a révélé dans sa parole. Et c'est aussi la recette parfaite pour aller droit dans le mur de nos vies. Recevoir la sagesse, c'est important parce que tes décisions, parce que ça change tes décisions concrètes. Ça t'aide à avancer, même quand c'est difficile de comprendre, de construire ta vie et pas la détruire, de prendre des bonnes décisions et pas des mauvaises décisions. Ça vient de la sagesse. Ça vient de la sagesse. Mais soyons honnêtes, comme Salomon, on échoue tous, encore et encore. Même quand on sait qu'il faudrait faire très souvent, on ne le fait pas. Et ça montre pourquoi on a besoin de quelque chose de beaucoup plus profond. On doit comprendre quelque chose de plus profond. Et ça, c'est le fait qu'on est brisé. On est brisé. Alors, vers qui ce qu'on se tourne? Comment devenir sage quand on est tellement brisé? Qu'on n'arrive même pas à faire ce qu'on voudrait bien faire. Isaïe, chapitre 11, verset 2 à 3, nous annonce qu'un autre roi allait venir. Pas Salomon, pas David, mais un autre roi qui se reposerait l'esprit de l'Éternel. Et quand Isaïe parle de cet roi qui viendra, il utilise tous ces vocabulaires, tous ces mots qu'on a lus ce soir dans la sagesse des Proverbes. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de puissance, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il jugera avec justice et corrigera avec droiture. Quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'on voit? Il grandit en sagesse, en taille et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, verset 52. Il est plus grand que Salomon. Matthieu chapitre 12. Il est appelé pour nous la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24 et verset 30. Et Paul dit encore, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 2, verset 3. Donc cette sagesse, c'est une vraie personne, Jésus, notre Messie, notre Sauveur, notre Roi, qui règne dans nos vies. Et c'est dans une relation vivante avec lui, quand il règne dans notre vie, on peut être réconcilié avec un Dieu trois fois saint, par Jésus-Christ. Et par son Saint-Esprit, Jésus habite en toi. Il te regarde, il te connaît, il te garde, il t'écoute, il marche avec toi, il parle à toi, et jour après jour, il te rend sage. Jour après jour, par sa parole, par la prière, par la repentance, par la vie dans l'Église, par sa grâce, qui reflète sa gloire pour toute l'éternité. Donc l'invitation aujourd'hui, c'est recevez la sagesse de Dieu dans tout le domaine de votre vie, dans tout le domaine, et surtout ces domaines où vous n'avez pas envie de se mettre sans règne. Là où vous résistez, là où vous préférez garder le contrôle, là où vous pensez encore savoir mieux que notre Dieu, Créateur et Rédempteur. Et c'est précisément là que la sagesse veut entrer, veut guérir, veut te transformer, pour sa gloire, pour notre Église, pour son Église, pour toute l'éternité. Amen. Je veux bien passer du temps dans la prière. Soyez libres à prier à notre Dieu pour la sagesse, pour nos vies et aussi pour notre Église. Seigneur, pardonne-nous pour la façon que souvent dans nos vies, On prend souvent des décisions par nous-mêmes, sans réfléchir, sans hésiter, sans regarder ta parole. On prend beaucoup de confiance dans notre stratégie, nos façons de vivre. Et quelquefois, on ne regarde pas, on ne cherche pas ta sagesse. Seigneur, brille en nous avec ta parole et ton Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous aide à faire les meilleures décisions, qui nous aide à discerner le bien et le mal. Pas juste au hasard, mais dans les décisions concrètes, dans la vie quotidienne. Aide-nous de grandir dans notre dépendance à toi et pardonne-nous pour notre fierté en nous-mêmes, souvent qu'on pense qu'on a tout ce qu'on a besoin. On est trop fier de nos pensées que ta sagesse. Seigneur, aide-nous de fixer notre regard sur toi, sur la croix, pour notre péché. Amen. Donc, l'invitation pour ce soir, pour le Saint-Saint, c'est de recevoir la sagesse qui vient de Dieu et de vraiment regarder et réfléchir un peu plus de qu'est-ce que c'est le domaine où je pense que c'est caché. En fait, que tu peux inviter Dieu à briller dans ces endroits-là, dans chacun de nos vies. La nuit que Jésus a été arrêté, il a pris des pains. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il vienne. Si vous croyez que Jésus règne sur son trône et règne dans votre vie, vous êtes bienvenus de prendre cette Sainte-Sainte avec nous ce soir. Vous voyez que Jésus est votre sauveur. Vous êtes invités à prendre cette Sainte-Sainte avec nous ce soir. Donc, vous êtes bienvenus.
Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauveur.